bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau reportage de Micro Rebelle Hebdo. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, littérature avec la deuxième et dernière partie de l'entretien réalisé en décembre dernier à Lille avec l'auteur Patrick Schindler à propos de son livre « Jean Genet, traces d'ombre et de lumière » édité aux éditions Libertaire. La semaine dernière, vous avez pu écouter la première partie de cette interview réalisée dans le Café Lillois Le Bel Ouvrage. Eh bien aujourd'hui, c'est la deuxième et la dernière partie. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Pour continuer comme ça à donner envie aux gens, aux jeunes et aux moins jeunes de lire ou de relire Genet, dans l'explication, dans ce que tu as raconté sur la vie, sur les différentes facettes de Jean Genet, peut-être l'homosexualité mise à part, moi quand on me parle de quelqu'un qui écrit avec ses tripes, je pense à Bukowski. Un peu comme Jean Genet, j'ai l'impression qu'on avait un peu rien à foutre de tout. Enfin, il en avait rien à foutre de tout, Bukowski, qui écrivait et qui laissait ses papiers comme ça traîner. Il les publiait, il se fichait de savoir ce qu'il allait toucher, etc. Je pense que tu as été confronté toi-même à essayer de trouver des parallèles dans d'autres auteurs avec Jean Genet.
Encore une bonne question, j'en ai marre. Jean Genet est un orphelin, Jean Genet est un autodidacte, je le répète. C'est un élève très brillant. Il était absolument brillant jusqu'au certificat d'études. Il faut dire qu'il l'a eu très jeune, ce qui était très rare à l'époque. Ce serait un peu l'équivalent aujourd'hui pour les jeunes du baccalauréat. Avoir le certificat d'études dans les années 1910-1920, c'était déjà quelque chose. Lui, il n'a pas refusé. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il serait parti d'une façon tout à fait différente s'il n'avait pas appris qu'il était orphelin, un gosse de l'assistance publique. Un pupille de la nation, ça c'est un peu similaire avec les pupilles de la nation, c'est-à-dire que ça tombe sur la gueule tout à coup. Que c'est plus pour moi du côté de Bukowski, que je connais peu, je l'apprécie moins, bon, c'est vrai, je le connais moins, c'est pas que je l'apprécie pas, hein, mais je le connais moins, donc je ne voudrais pas m'engager sur cette voie. En tout cas, lui a donc choisi d'arrêter l'école. C'est différent que de se faire enlever le droit à l'école, quoi, ce qui était le cas de Jean Genet. Ben alors, il y avait une deuxième question sous la sous-question. Donc, oui, effectivement. Alors, pour la démarche intellectuelle, je pense que c'est exactement la même, absolument. C'est effectivement écrire. Et là, je te rejoins totalement au niveau de Bukowski, que j'ai lu. Quand je dis que je le connais peu, mais j'ai quand même lu. C'est moins mon créneau. Je ne veux pas dire par là que je fais une différence. Ce n'est pas parce que Jean Genet était homo et Bukowski dans l'écriture, ça je suis d'accord. Alors on a la version homo qui n'est pas plus soft que la version hétéro, parce que, excusez-moi, mais c'est quand même très cru que ce soit Bukowski ou Genet, ça se rejoint. J'aurais peut-être fait d'autres parallèles, là c'est dommage, j'ai dans un bar parce que le fil de ma pensée s'en va dans les effluves du son. Mais non, quand tu me disais, alors là je vais jusqu'à la dernière phase de ta question, non je ne penserais pas à Bukowski. Quand tu me disais à qui me ferait penser, c'est bien la suite logique de ta question. Non, il me ferait beaucoup plus penser à François Villon, directement. Arthur Rimbaud, sans le côté bourgeois de Charleville, du côté de Rimbaud. Sans le côté bourgeois, c'est pour ça qu'il est atypique, Jean Genet, sans le côté bourgeois de François Villon, qui a une enfance un peu plus dorée, on va dire, entre guillemets, que Jean Genet, parce qu'il a eu la chance d'être placé chez la chance. En tant qu'anarchiste, je ne peux pas dire la chance, mais en tout cas l'occasion, je ne sais pas comment on peut dire ça, d'être placé chez les séminaristes, curés, etc., qui lui ont fait son éducation. Il faut savoir que Villon est quand même allé jusqu'à l'université, ce qu'a pas eu l'occasion de faire Jean Genet, même si Villon, après, n'avait eu rien à foutre, a eu une vie. Bon, je le rapprocherai plus de François Villon, de Rimbaud dans l'écriture, de Villon dans l'écriture, je parle bien de la vie et de l'errance, parce que Villon c'est de l'errance, Arthur Rimbaud c'est de l'errance, Rimbaud est aussi, et ça c'est pas dramatique, c'est qu'une question de naissance et de contexte, et aussi un enfant de bourgeois, Charleville-Mézières. Alors lui, il a pas choisi de continuer ou de terminer ses études Mais c'est simplement 1970, ça doit te rappeler l'invasion de la France par les Prussiens, et qui va donner naissance à la Commune de Paris. Donc tout simplement, il n'a plus accès au lycée parce que le lycée de Charleville est fermé. Donc voilà, donc ça veut dire, ce sont quand même des gens qui, d'une manière ou d'une autre, comme Bukowski, ont effectivement, pour des raisons différentes de contexte social ou d'histoire personnelle, ont une continuité dans le fait de quelque chose s'arrête la scolarité à un moment et sont des vrais autodidactes, tous ceux qu'on vient de citer, dans la continuité de leurs œuvres et de leurs démarches. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais je pense que c'est un petit peu... Voilà, je le rapprocherai plus de Rimbaud, même voire de Baudelaire, j'irais jusqu'à dire Baudelaire, avec son côté bourgeois et d'espèce de parvenu... d'assister de par sa famille qui va l'assister jusqu'à la fin de sa vie, mais il y a quand même rupture avec voilà, moi ce qui m'intéresse c'est la rupture, enfin voilà, non mais on va pas, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire et puis il me ferait penser à beaucoup d'autres gens. Pff, on va peut-être parler d'autre chose.
This is my first time.
Vous êtes toujours sur Micro Rebelle Hebdo, vous écoutez Sorry de Nimano, le reportage va reprendre dans quelques instants. Micro Rebelle Hebdo, c'est tous les mardis à 15h sur Radio PFM 99.9 et sur internet microrebelle.fr. La suite de votre reportage, c'est maintenant.
Là, on va arriver vers la fin de l'entretien. Puis on va déguster de bonnes bières sans micro, hein.
Je suis venu aller exprès pour déguster la bonne bière.
Mais dans les deux références que tu cites, ça m'amène sur ma dernière question. Et du coup, c'est très bien parce que tu prends, pour toi, ça te fait penser à Arthur Rimbaud, François Villon. Ce sont des poètes. Et on arrive à la fin de l'entretien, donc on va aller à la fin de ton livre. Et il y a un poème, Le condamné à mort. Moi, je trouve très intéressant de, à la fin d'un livre, de mettre un poème, un texte complet. Ça donne envie de lire. Du coup, merci de me donner envie de lire Jean Genet. Alors, ça va être une question en plusieurs parties, comme ça je te laisse t'exprimer sur ça. Pourquoi ce poème? Et puis, dans toute l'œuvre de Jean Genet, pourquoi tu retiens aussi ce côté poète?
Je crois qu'à quand on a lu le bouquin, on a toute l'ombre hein, au début. Il faut finir sur la lumière. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très positif. Alors, l'histoire du condamné à mort est une très belle histoire parce que c'est un poème qu'il a écrit dans les années 60. C'est un fantasme. Il l'a écrit pour Maurice Pilorge, qui était condamné à mort. Et on ne saura jamais... Enfin, vous n'avez qu'à lire le livre, vous saurez. C'est une énigme mêlée de vécu, mais je pense que c'est pas... Je pense il est à peu près improbable qu'il ait connu vraiment Maurice Pilange. Maurice Pilange était un exemple parce que c'était un assassin, pas du tout politisé, un assassin vraiment de droit commun, qui était très beau. Et Jean Genet aimait bien les beaux hommes. Enfin voilà, ça c'est pour l'histoire. Ensuite, il a réécrit ce poème 3 fois durant sa vie. Mais la symbolique est toujours restée la même. Il imagine que Maurice Pilorge, qui est mort dans une prison en Normandie, au Havre, est au-dessus de sa tête. Il l'a rêvé, il a sûrement vécu, en tout cas, non pas par fantasme, mais je pense qu'il l'a vécu avec ses tripes. Ce poème est un poème de tripes. Mais il évoque Maurice Pilorge, donc le dernier jour de sa vie, jusqu'à son exécution. Je crois qu'il ne faut... C'est très difficile de parler d'un poème parce que, comme je le dis, il y a eu 3 versions. Beaucoup d'interprétations sur ce poème. On retrouve tout Jean Genet dans ce poème. Moi, j'aimerais envie de finir par c'est dommage que je puisse pas... il faut l'écouter. Alors là, pour les jeunes, déjà, si c'est une... comme c'est la conclusion de mon livre, ce sera l'introduction, peut-être pour vous, de vous donner l'envie de le lire. Lisez ce poème. Mais surtout, écoutez-le. Les jeunes et les moins jeunes, si ça vous est échappé, il est toujours temps de rattraper les choses. Il y a une version de Marc Augeret, qui date des années 70-80, qui est une très belle version. C'était mis en musique et interprété par Marc Augeret. Et il y a une autre version qui est beaucoup moins connue, par Hélène Martin, qui était une interprète. Alors, il y a un petit clip que vous pouvez retrouver gratuitement, je crois, sur YouTube, qui s'appelle Le condamné à mort, Hélène Martin, qui était une chanteuse qui se revendiquait clairement lesbienne. Donc, une lesbienne qui chante Jean Genet. C'est quand même extraordinaire, parce que j'en ai parlé un petit peu ce soir au CCL de Lille. C'est quand même quelqu'un d'assez masculiniste, dont la lecture peut paraître un petit peu repoussante pour les femmes, et pourtant je conseille aux femmes qui aiment entrer dans un univers un peu difficile, je vous rassure, il n'est pas sexiste, il ne voit carrément pas les femmes, il est négationniste de la femme. Non, je plaisante, mais là j'aime bien plaisanter parce que c'est exactement ça. Et donc une chanteuse de talent qui s'appelle Hélène Martin, qui s'appelle Hélène Martin, j'espère pour elle qu'elle est toujours vivante, qui l'interprète de façon magnifique. Donc une chanteuse se réclamant du lesbianisme chante un poète se réclamant homosexuel, voleur, menteur, criminel, tout ce que vous voulez, etc. Et ben ça c'est de la lumière. Et si c'est pas de la lumière, quand vous aurez écouté donc ce petit passage du condamné à mort, commencez par le poème, peut-être vous aurez envie de revenir au début de l'ouvrage et de connaître un petit peu mieux ce personnage qui a écrit une beauté comme ça. Et donc dans le titre, il y avait ombre et lumière. Je termine sur la lumière. C'est pas le plus beau poème de Jean Genet, il y en a d'autres, mais pour moi c'est le plus beau. L'ombre et la lumière.
Alors, pour vraiment conclure, maintenant, Patrick, je voudrais que on lise chacun une strophe. Une strophe de ce poème. Alors, moi, j'ai déjà repéré la strophe que je voudrais lire. Voilà, on lit la strophe qu'on préfère. Alors, pour les auditeurs et les auditrices, j'ai découvert le poème ce soir, très rapidement, je l'ai parcouru. Du coup, j'ai trouvé une strophe. Je demande à la mort la paix. Les longs sommeils, les chants de séraphins, leurs parfums, leurs guirlandes, les angelots de laine en chaude houppelande, et j'espère des nuits sans lune ni soleil sur d'immobiles landes. Alors maintenant, je laisse la parole à Patrick.
Mon passage préféré. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour vient sur ma bouche, amour ouvre les portes, traverse les couloirs, descend, marche léger. vole dans l'escalier plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un feuille de feuilles mortes. Ô, traverse les murs si le faux marche au bord, des toits des océans couvre-toi de lumière, use de la menace, use de la prière, mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Eh bien voilà, l'entretien avec Patrick Schindler est maintenant terminé. Je vous rappelle que Patrick Schindler était venu en décembre 2016 à Lille au Centre Culturel Libertaire pour parler de son livre « Jean Genet, traces d'ombre et de lumière » édité aux éditions Libertaire. Alors un mot sur les musiques libres que nous avons écoutées durant ce reportage. Vous avez écouté « Sorry » du groupe Nimano, sorti sur la compilation d'automne du label « Chill Hop Records ». On va se quitter avec Klein de Tantou, sorti sur la même compilation. L'introduction et les transitions viennent du morceau Agony de Neat Beats sur l'album Alternative Soundtrack to Un Chien Andalou. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain reportage sur Micro Rebelle Hebdo que vous pouvez réécouter en podcast ou en streaming sur le site microrebelle.fr. Et vous pouvez aussi aller découvrir toutes nos autres émissions. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !